enchaîne directement avec Pierre-Louis Faure, qui vient de l'Université Sage-Pontoise, de l'UFM. Il travaille au Centre de recherche texte et francophonie, c'est l'RTF, comme le maître de conférence, et va nous parler du témoignage entre littérature et histoire dans les manuels de français de 3e.
Merci. Le témoignage peut être partie prenante de la construction des savoirs en histoire, certes, mais aussi en français. Les manuels de français de 3e proposent ainsi de nombreuses séquences articulées autour du témoignage, avec des titres souvent très explicites. Par exemple, témoignage, destinée héroïque chez Belin, comment et pourquoi témoigner chez Nathan, récits et témoignages de la Grande Guerre chez Attier, témoignage et mémoire chez Hachette. On voit donc nettement que, même si les littéraires sont parfois réservés à l'endroit des témoignages, que sont-ils précisément? Dans quelle mesure relèvent-ils de la littérature? Tout comme les historiens peuvent l'être aussi, dans quelle mesure ne sont-ils pas seulement littérature? Les textes testimoniaux occupent une place de choix dans les manuels de français à destination des élèves de 3e. Il ne s'agira pas ici de régler des problèmes esthétiques ou poétiques relevant de la critique littéraire et de la réflexion historique sur le témoignage, mais d'interroger la présentation et l'exploitation pédagogique qui en est faite dans les manuels scolaires. Quelle saisie les manuels de français de 3e proposent-ils de ces textes qui jouent, et je vais citer Jouot, Ribard et Shapira, sur la capacité du témoin à dire la réalité et la puissante réalité de l'écriture elle-même qui classe, formalise, communique. Insiste-t-il, pour reprendre cette tension entre l'événement même et sa transposition, sur une appréhension historique ou sur une saisie littéraire de ses écrits? On montrera tout d'abord comment les séquences ouvrent sur des contenus disciplinaires liés tout aussi bien au français qu'à l'histoire. On se demandera ensuite ce que le témoignage fait à ou ce que le témoignage fait de la littérature dans ces séquences. Et on terminera par l'esquisse d'une typologie des chapitres étudiés afin de déterminer les grandes orientations qui se dégagent parmi les manuels du corpus, non sans montrer qu'elles n'empêchent pas l'instauration d'un jeu de complémentarité entre les domaines historiques et littéraires. Si certains textes des manuels ouvrent à la marge vers des problématiques culturelles, ethnographiques et ou sociétales qui ne mettent pas en avant le lien à la temporalité, la plupart des extraits sélectionnés se caractérisent par un ancrage historique très fort en liaison avec des périodes troublées et conflictuelles. Dans l'ensemble, et c'est là un des traits, les plus nets, les manuels de français rattachent la question du témoignage à l'exploration des grands conflits mondiaux du XXe siècle. La guerre la plus représentée est la Seconde Guerre mondiale, que l'on retrouve dans pratiquement chacun des ouvrages, avec des densités textuelles différentes selon les séquences, moins d'un tiers des extraits dans le manuel texto chez Hachette, jusqu'à l'intégralité des textes constituant la séquence pour le manuel édité chez Magnard. Ce dernier propose en effet une séquence thématique entièrement articulée autour de 39-45. Seul le manuel publié par Attier fait exception à ce choix, non qu'il ne prenne appui sur la thématique guerrière, mais parce qu'il se centre sur la guerre de 14-18 avec récits et témoignages de la Grande Guerre. En élaborant ainsi des séquences articulées autour de textes liés aux grands conflits mondiaux du XXe siècle, les manuels de français s'inscrivent dans des approches susceptibles de faciliter les croisements disciplinaires, puisque les programmes d'histoire enjoignent de consacrer environ 5 heures à chacune de ces guerres. Ces textes sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale, qui représentent les deux tiers du corpus total, sont donc, en raison de leur poids référentiel, particulièrement propices à une saisie aimantée vers l'histoire, difficile en effet de ne pas les contextualiser et de ne pas les soumettre à une grille de lecture à forte teneur historique. En termes d'apprentissage littéraire, les textes proposés dans les séquences permettent de mobiliser un certain nombre de savoirs spontanément associés à la notion de témoignage, au point de vue de l'énonciation et de la convocation des genres. Quand je dis spontanément associé à la notion de témoignage, je pense à des définitions type représentation littéraire de l'identité personnelle et des événements historiques dont on se fait le témoin, et je cite Jean-Louis Janel. Dans la majorité des cas, l'énonciation se fait effectivement à la première personne, c'est-à-dire que ceux qui écrivent sont ceux qui ont vu ou qui ont vécu. Les genres convoqués dans la perspective du témoignage sont dès lors majoritairement ceux qui relèvent de l'écriture à la première personne, à savoir l'autobiographie, les mémoires, le journal et l'épistolaire. Certaines phases d'institutionnalisation énumèrent d'ailleurs ces formes prototypiquement liés à l'expression de soi. Mais les manuels proposent également des approches un peu plus complexes. Ils montrent ainsi que le témoignage peut se faire à la première personne, certes, mais sans relation d'identité avec l'auteur, via un scripteur qui se fait relais. Plus encore, ils invitent à interroger le recours à la fiction et l'utilisation de la troisième personne. La fiction permet une prise de distance par rapport aux événements, aux souvenirs, précise le manuel Nathan, par exemple. Ils montrent ainsi que le témoignage peut tirer profit du genre romanesque. Ils attirent également l'attention des élèves sur la force de la poésie, dont ils soulignent alors la potentialité d'évocation personnelle et d'engagement. On relève ainsi la présence de poètes, ce qu'on appelle souvent les poètes de la résistance, avec par exemple une double page consacrée au témoignage en poésie chez Belin, où on retrouve Aragon, Desnos, Échard. Enfin, en termes d'ouverture générique, on pourra mentionner la présence de la bande dessinée, soit directement avec l'insertion d'une planche, soit avec des incitations à lire des ouvrages de bande dessinée qui sont en adéquation avec la question du témoignage. Certaines relèvent au demeurant des prescriptions officielles, comme Maos de Spiegelman, auquel le manuel Magnard consacre une demi-page de questionnaire dans le but de guider une lecture personnelle. Donc un rapide parcours des textes proposés par les manuels du corpus permet de voir que les séquences articulées autour du témoignage sont propices à des saisies permettant de convoquer les savoirs relevant du cours de français et du cours d'histoire. Après avoir vu que ces chapitres s'ancrent donc à la croisée des disciplines français et histoire, intéressons-nous maintenant à la nature des textes retenus. Quel corpus et quels auteurs les manuels proposent-ils pour aborder le témoignage en troisième ? S'agit-il de textes littéraires consacrés ? Les appareils didactiques les placent-ils ou les replacent-ils dans cette perspective ? Dans l'ensemble, les ouvrages recourent à une très grande variété d'auteurs, non seulement français, mais aussi étrangers, comme remarque. On peut ainsi en dénombrer 45, toutes catégories confondues. Sont ainsi utilisés aussi bien des textes de scientifiques, Théodore Monod, d'écrivains consacrés, Romain Gary par exemple, d'auteurs d'œuvres plus récentes, Robert Bobert, ou d'écrivains classiques prescrits par les programmes, comme Hugo ou Aragon. On retrouve même des auteurs très ancrés du côté de la littérature de jeunesse, comme Paul Duboucher. Et on peut dire que la richesse des manuels réside dans cette diversité auctoriale où prédominent les auteurs pouvant clairement être identifiés comme écrivains, par opposition à d'autres, moins nombreux, relevant d'autres catégories comme des essayistes ou des journalistes. Alors si nombre des auteurs sollicités sont des sortes d'apax, quelques-uns parmi eux font cependant retour avec les mêmes œuvres, constituant ainsi ce qu'on pourrait appeler des figures récurrentes du témoignage. Ce que j'ai considéré comme étant ici des figures récurrentes du témoignage, c'était les auteurs qui étaient convoqués dans au moins deux manuels. Et les textes sur lesquels je me suis arrêté, ce ne sont que les textes qui sont réellement exploités dans les manuels, pas ceux qui sont juste une indication de lecture ou autre. Donc vraiment les textes présents avec un appareil didactique autour. Alors, parmi ces auteurs récurrents, on retrouve le général de Gaulle et ses mémoires, chez Belin et Hachette, Anne Frank et son journal, chez Magnard et chez Hachette, Victor Hugo et Chose Vue, chez Nathan et toujours chez Hachette, Lucie Aubrac avec Ils partiront dans l'ivresse, chez Belin et Magnard, et René Char avec Feuillet d'hypnose, chez Hachette et Belin. Donc, deux auteurs très classiques se dégagent d'emblée de ce corpus. Victor Hugo, que les élèves auront vraisemblablement déjà rencontré lors de leur scolarité, et René Char, figure majeure des poètes de la Résistance. Les manuels s'appuient à chaque fois, enfin, en tout cas on peut espérer, les manuels s'appuient à chaque fois, pour chacun d'eux, sur les mêmes œuvres. Chose vue pour Victor Hugo, comme je l'ai dit, et Feuillet d'hypnose pour Char. Des choix qui sont très fortement liés au témoignage à chaque fois. En ce qui concerne Victor Hugo, chacun des manuels propose à la lecture un extrait différent. Cependant, la distinction essentielle entre les manuels ne réside pas dans ce choix, mais dans les questions qui accompagnent les textes. Une lecture attentive permet en effet de voir que l'un, Nathan, invite à envisager l'extrait aussi bien d'un point de vue littéraire que d'un point de vue historique. Il s'agit dans le questionnaire de se renseigner à la fois sur l'événement et sur le fonctionnement du texte, tandis que l'autre, Hachette, oriente davantage vers une exploitation strictement littéraire, avec une interrogation notamment axée sur des questions liées au récit, à la description. On retrouve d'ailleurs la même orientation à prédominance littéraire dans l'exploitation de feuillets d'hypnose que propose ce même manuel. il accompagne de fait le texte d'une étude guidée abordant les effets de style. Belin, l'autre manuel qui réfère à Chat, place l'extrait dans la rubrique « Pour aller plus loin » et on propose certes une simple lecture, mais mise en résonance avec des extraits du roman inachevé d'Aragon et de « Destinée arbitraire » de Robert Desnos. Autrement dit, en le situant implicitement dans une lignée littéraire où se côtoient les poètes de la Résistance. On constate donc avec Hugo et Chat que les manuels se font non seulement les vecteurs de valeurs littéraires attestées, mais qu'ils les utilisent essentiellement comme tels, c'est-à-dire via une approche qui en exploite la dimension littéraire plus qu'historique. Anne Frank est elle aussi un auteur canonique, souvent présenté comme un classique de la littérature de la Shoah. Dimension testimoniale oblige, les rédacteurs de manuels ont retenu des passages du journal où l'épistolière évoque des horreurs de son temps, des choses affreuses, disent les auteurs chez Hachette, et des nouvelles déprimantes chez Magnard, afin de montrer que le journal intime peut être envisagé comme témoignage en liaison avec l'époque, non sans négliger également l'implication du jeu scripteur. Là encore, les extraits sont différents, mais la saisie qu'en proposent les manuels les unit dans le lien qu'ils tissent avec la dimension littéraire. À chaque fois, en effet, l'extrait reçoit un traitement essentiellement littéraire, l'auteur est présenté comme diariste, et c'est le lien à l'écriture qui est mis en avant à chaque fois. Chez Hachette, le questionnaire est par ailleurs très orienté vers le fonctionnement textuel, avec des questions qui portent sur la mise en relief, la progression à thème éclaté, le choix du lexique. Quant à Magnard, le lien au français est renforcé par l'inscription de l'extrait dans une double page liée à la préparation du brevet de français, épreuve disciplinaire s'il en est. Les deux autres auteurs qui se dégagent du corpus restreint sont avant tout des acteurs historiques, le général de Gaulle et Lucie Aubrac, généralement plus mentionnés pour leurs actions que pour leurs écrits, même si tous deux sont auteurs de livres phares quand on aborde la question du témoignage. Il est intéressant de voir que la présentation qui est faite des extraits de leurs œuvres correspond à cet horizon d'attente en mettant en avant leur ancrage dans le temps historique, mais celle-ci est bien vite rejointe par une interrogation relevant du cours de français. Si on compare l'angle d'exploitation des extraits de textes de Lucie Aubrac par rapport à ceux d'Anne Frank, on voit immédiatement que les manuels ne présentent pas les deux femmes sous le même angle. Pour Anne Frank, je le disais tout à l'heure, ce sont les activités d'écrivain qui sont envisagées en premier lieu, tandis que pour Lucie Aubrac, ce sont celles de résistante. Chez Magnard, par exemple, le livre est certes mentionné et un petit extrait donné, mais c'est le film Lucie Aubrac qui est présenté sur 6 pages. Et c'est donc le film qui prend le pas et c'est la dimension historique qui en sort renforcée via un questionnaire très ancré sur la résistance. Chez Belin également, le paratexte insiste sur cette dimension engagée, mais la saisie précise du texte oriente davantage vers le français avec un questionnement portant sur le journal intime et des questions qu'on pourrait appeler des questions de grammaire de texte. La dernière figure qui se dégage de ce corpus est celle du général de Gaulle. On notera dans son cas une proximité de traitement intéressante dans les deux manuels qui consacrent non pas une mais une double page à l'examen des mémoires. Les deux manuels ont effectivement la même visée, celle de montrer, je cite, un personnage acteur et témoin, un des témoins privilégiés ou acteurs de l'histoire dans l'autre manuel, et participe de l'institutionnalisation du même extrait des mémoires, à quelques lignes près, celui référant au 26 août 1944, où le général parle de la libération de Paris. La proximité est d'ailleurs renforcée par le choix illustratif, on a quasiment la même photo, mais pas zoomée de la même façon. Outre la figure du général de Gaulle, les deux manuels contribuent donc à canoniser le même texte. La seule différence, là encore, réside dans l'exploitation textuelle. Chez Belin, l'ensemble des questions vise des savoirs liés au français, non à l'histoire, et le texte est par ailleurs étudié en écho avec un autre passage de l'œuvre, manière de travailler sur l'intratextualité. Chez Hachette, le texte est également mis en regard avec un autre texte, mais il s'agit cette fois-ci d'un texte de Simone de Beauvoir, La force de l'âge, destiné à montrer un autre regard sur la même période et revenir plus précisément sur ce qui s'est passé dans les jours précédents. Ce qui est renforcé par ailleurs par deux questions qui incitent à compulser de façon très concrète le manuel d'histoire et un plan de Paris. Que les auteurs relèvent du champ littéraire ou qu'ils s'inscrivent à la croisée des champs historiques et littéraires, tous les textes produits par les figures récurrentes du corpus reçoivent un traitement qui met en avant leur dimension littéraire, non sans négliger, mais de façon moins marquée, leur relation à l'histoire. Peut-on pour autant dire que l'approche historique est seconde dans les séquences proposées par les manuels ? Il convient en fait de changer d'échelle et d'examiner l'intention d'ensemble des chapitres et les variations sensibles à l'intérieur même de ces séquences. Comment se négocie, à l'échelle des séquences, le va-et-vient entre les domaines historiques et littéraires. En étudiant de plus près chacun des chapitres des manuels retenus, on se rend compte qu'on peut distinguer trois types d'ouvrages. Ceux qui mettent en avant la dimension historique. Qu'en est-il alors de la place de la littérature? Ceux qui privilégient une perspective littéraire. L'interrogation devient alors, quel rôle pour la dimension historique? Et ceux, enfin, qui déjouent la tension entre histoire et littérature. On peut se demander ce qu'ils visent alors. Dans la première catégorie, je vais aller un petit peu plus vite pour tenir dans les temps, je placerai les manuels qui semblent offrir une place prédominante à l'histoire, non sans articulation avec la littérature, bien sûr, hein, on n'oublie pas le contexte premier. C'est le cas des manuels Magnard et Attier. Je vais passer rapidement sur le manuel Magnard, mais il me semble qu'il est intéressant de souligner qu'il est mentionné au tout début qu'il s'agit de travailler en interdisciplinarité, et c'est le seul à le mentionner. On voit également dans ce manuel que la dimension historique prend rapidement le pas avec l'attaque du chapitre, qui est constitué par des repères historiques, sans aucune référence littéraire, ce qui n'est pas le cas dans le manuel de chez Attier, que je place dans la même catégorie, et qui commence également par des repères, mais qui part de repères historiques pour aller vers des repères littéraires. Et la phase d'institutionnalisation, toujours chez Magnard, elle se réduit de nouveau à faire le point sur l'enrichissement amené par des approches disciplinaires croisées. Et si on regarde le déroulé de la séquence, on est sur un axe à dominante chronologique, la défaite de 1940, collaboration et résistance, et enfin raconter l'indicible, plus ou moins sur une perspective chronologique, à l'inverse de la plupart des autres manuels qui ne se situent pas dans ce genre de perspective. Alors, récit et témoignage de la Grande Guerre, qui est le titre choisi par les rédacteurs du manuel paru chez Attier, s'inscrit dans cette même perspective. On sent là également une très forte volonté de s'impliquer dans une démarche interdisciplinaire, avec la référence marquée à la périodisation historique, et de s'inscrire dans une démarche placée sous le signe de l'histoire. Dans cette séquence, on retrouve également une organisation chronologique, plus ou moins, des textes proposés, avec, par exemple, la mobilisation, puis le front. Mais la dimension littéraire est tout de même davantage marquée que chez Magnard, pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. Puisqu'on va passer d'un passage portant sur des questions historiques pour arriver aux écrivains soldats et finalement à trois romanciers de guerre, Barbus, Dorgelès et Remarque. Et la leçon finale insiste par ailleurs sur les genres des textes et des réflexions très littéraires comme une interrogation sur les topoi des récits de guerre ou les procédés d'écriture. Deuxième grande catégorie de manuels, ceux qui mettent plus l'accent sur la dominante disciplinaire français que sur la dominante disciplinaire histoire. C'est le cas du manuel Belin. Alors je dis ça parce que la notion de genre est clairement mise en avant dans le texte et que tout s'organise cette fois-ci, non pas par rapport à une périodisation historique, mais par rapport à l'exploration de différents genres. Par exemple, autobiographie, mémoire, journal, lettres, poésie. C'est le cas également pour le manuel Hachette, où on se retrouve d'un petit peu dans le même cas de figure, et où il est clairement expliqué qu'il s'agit de s'interroger sur le choix d'un genre pour témoigner. Et le troisième type de manuel, ce sont des manuels qui me semblent dépasser les oppositions disciplinaires et se situer dans ce qui se présente comme une approche davantage renseignée par des interrogations d'ordre communicationnel plus qu'historique ou littéraire. Et le manuel Nathan, à mon avis, en est un exemple. Les objectifs affichés sont de découvrir des formes de témoignages et non des genres littéraires à proprement parler, ainsi que leurs fonctions. On voit l'insistance qui est mise sur, je cite, la charge émotionnelle et le poids du message. Il n'importe pas non plus dans cet ouvrage d'explorer une période historique précise, et c'est certainement pour cette raison que c'est le manuel qui convoque non seulement des époques très variées, depuis milieu 19e jusqu'à l'extrême contemporain, ainsi que des références allant de l'historique jusqu'au culturel. La page d'institutionnalisation insiste ainsi sur l'implication de l'énonciateur, ses marques de subjectivité entre autres, et son rapport à l'énonciataire. La part réservée aux formes et genres est réduite à un simple paragraphe dans lequel se mêlent sur un même niveau genres littéraires clairement identifiés, les mémoires par exemple, et supports de toute nature, croquis, dessins. Il s'agit donc de mettre en avant le témoignage comme processus de communication. On retrouve cependant des textes littéraires canoniques, puisqu'on retrouve là Victor Hugo, et la dimension historique qui n'est pas oubliée, avec notamment un extrait, et c'est le seul à le proposer, de L'étrange défaite, témoignage écrit en 1940 de Marc Bloch. Les dominantes signalées ne sont évidemment que des orientations perceptibles, et elles peuvent ponctuellement être remises en question au sein même des chapitres. Les séquences, selon le texte étudié, selon la personnalité du scripteur, insistent davantage sur l'exploitation historique ou l'exploitation littéraire. Ce qu'il convient d'observer, c'est la multiplicité des manières de conjuguer les rapports entre les deux disciplines français et histoire. Aucun des manuels, ou aucune des séquences, en tout cas au final, ne semble réduire la littérature au rang de simple outil. Elle demeure objet d'enseignement. Tous les manuels, peu ou prou, interrogent les textes dans leur dimension littéraire, et non accessoires au profit d'une autre intentionnalité. Je vais conclure en disant que l'étude du témoignage est sans nul doute l'une de celles qui s'articulent le plus spontanément entre le français et l'histoire. Les manuels qui constituent notre corpus le montrent tous. Ils jouent le jeu de cette articulation ferme entre les deux disciplines, avec prédominance de l'une ou l'autre, mais sans jamais sacrifier ni l'inscription historique, ni la littérarité du texte. Pour les élèves, la vision du témoignage proposée par les manuels dépasse donc celle d'une opposition entre les disciplines et montre comment, au contraire, elles sont complémentaires dans le cas d'un tel objet. On sera sensible, en conclusion, à la diversité non seulement des angles d'attaque, mais aussi des choix qui permettent aux élèves de se faire une idée non sclérosée de ce qu'est le témoignage. On pourrait peut-être, en guise d'ouverture, proposer deux pistes quant à l'exploitation du témoignage dans les manuels. La première pourrait être une sensibilisation à un questionnement portant sur l'esthétisation liée au discours littéraire. Et la deuxième serait d'ouvrir les séquences à davantage d'auteurs avec un E. Dans notre relevé des auteurs récurrents se trouvaient deux femmes, ce qui peut sembler être un bon ratio, mais à l'échelle de l'ensemble, les femmes ne représentent que 4 auteurs sur 45. À quand donc des séquences qui convoqueraient Geneviève de Gaulle, Antonio Rose, Elsa Triolet ou Inge Scholl, pour ne citer que quelques-unes de celles qui pourraient facilement trouver leur place dans les manuels. En 2012, à l'occasion de la mise en œuvre de nouveaux programmes, peut-être, rien ne nous empêche d'en faire l'hypothèse, ni même d'en formuler le vœu. Je vous remercie.
Merci à tous les orateurs. Est-ce que vous avez des questions sur l'une ou l'autre des communications? Oui.
J'ai participé à la rédaction des programmes de français de la voie professionnelle et il me semble que nous avons pris en compte l'équivalence, mais au niveau des compétences en fait. Et je vais revenir sur ce que vous disiez, parce qu'une connaissance chronologique, c'est un peu foncier, ça n'est pas grand intérêt, mais dans chaque objet d'étude, et pas thème, parce que c'est assez important. Dans chaque objet d'étude, il y a trois questions, et par exemple, si je pense à part pour le personnage, c'est les valeurs d'un personnage, sont-elles celles de l'auteur ou celles de l'époque? C'est bien une question abordée par l'histoire, des valeurs des personnages de romance qui peuvent être de l'époque, et sur le plan de la méthodologie des démarches à mettre en œuvre. Alors, moi, je parlais plus de compétences qui sont dans le contexte, mais on va se poser les mêmes questions, des questions proches de celles qu'on se pose en histoire, quand on met à distance un document, quand on met en perspective un document, sans pour autant réduire le texte à un support.
Oui, effectivement, c'est par les compétences que le bien se fait. Mais de mon point de vue, ça pose quand même. Inhérent de l'histoire même de l'enseignement professionnel, la forme des compétences, effectivement, c'est un lieu aussi de rencontre. Mais on est quand même dans une forme d'instrumentalisation, c'est-à-dire où la compétence ne permet pas de rejoindre un petit peu ce qui a été dit dans d'autres interventions, c'est-à-dire de l'ordre des connaissances, par exemple. Donc, la question que je me pose, c'est ça, c'est comment articuler finalement. La compétence qui porte en elle un principe des connaissances. La compétence porte en elle les connaissances. Or, il me semble qu'on ne voit pas suffisamment cette déclinaison un peu complexe de la compétence.
Voilà. Mais il y a une question mais qui traverse les trois interventions. Par exemple, dans les programmes, on a 27 problématiques, et il y en a une qui est en quoi la connaissance du contexte de production d'une œuvre peut-elle aider à former son goût, à former l'appréciation que nous avons de cette œuvre. Et il s'agit bien, me semble-t-il, mais c'est tout vrai, on est en train de réfléchir à tout cela. Il y a bien une circonstance à l'histoire et au français.
Moi je pense que effectivement, l'entrée par les compétences, ça peut être une ouverture possible, enfin une perspective possible qui il faudrait un peu tomber ce clivage finalement, par exemple. Apprendre à lire un texte, les différentes modalités de la lecture, c'est une compétence en soi, elle peut se décliner selon différents supports, différentes méthodes, etc. Donc oui, je pense que les compétences, l'entrée dans les compétences, elles engageraient effectivement un travail qui permettrait d'articuler pour mieux les discipliner la condition de faire qu'il y ait les bonnes personnes en face, c'est-à-dire qu'il faut aussi des enseignants qui puissent enseigner les différents modes de lecture, par exemple. Face à la compétence de savoir lire, il y a un enseignant de l'histoire, un enseignant de français, qui s'apporter chacun leur méthode.
Oui, moi, j'entends bien l'entrée par les compétences. Après, il faut. Chacun garde sa spécificité. Lire un texte, c'est tout ça. Oui, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que lire un texte scolaire, c'est quand même lire un texte qui est extrêmement particulier de la culture. Les autres, pour ça qu'ils ne connaissent pas la gueule, alors moi je suis plutôt du côté de l'aide, je suis en train de me dire, je ne sais pas si c'est un peu exceptionnel, parce qu'en fait, dans le manuel, j'ai des cours d'histoire, dans lesquels il y avait des bouts de discours, de Gaulle, je ne sais pas qui, quoi. Il y a un discours magistral. Là, enfin, dans l'approche qui peut être faite au manuel, il y a des approches qui sont en fait. Paraissent un peu excessifs dans la mesure où, de toute façon, on ne peut pas reprocher à des manuels qui s'appellent manuels de français, de ne pas être interdisciplinaires, qui sont des manuels de français. Et on voit bien que dans tout ce que vous avez notamment vu sur l'histoire des arts, il y a une ouverture permanente vers d'autres arts de la littérature. Alors, vous avez bien dit qu'il n'y a pas plus d'interdisciplinarité dans l'histoire des arts, mais déjà dans l'histoire des arts, il y a un gros travail pour essayer de ne pas seulement proposer systématiquement des tableaux, par exemple. Des sculptures, parce que le manuel et le manuel papier, c'est très difficile de composer de la musique, par exemple. Non, mais c'est une vraie question qu'on se pose dès qu'on parle d'histoire de ça.
Mais le problème, c'est que là, par exemple, l'enseignant en lycée professionnel est bivalent. Il est directeur de l'histoire et le français. Donc lui, il a la double compétence. Et donc, c'est dommage qu'il ne profite pas plus, j'ai bien compris, de cette double compétence. Je voudrais demander si dans la formation des enseignants du lycée professionnel,
mais la question de la bivalence est extrêmement complexe. Plus on travaille, c'est plus grand maintenant qu'on travaille sur cette question-là. Et c'est tellement protéiforme qu'en fait, chacun est persuadé de découvrir une petite à définir en fait, la solution. Voilà, la bivalence, pour moi, c'est ça. Et à l'analyse, en fait, ce soit les compétences, ce soit le CGS, l'éducation civique et sociale, soit. Enfin, c'est décliné comme ça, soit tout simplement avoir les mêmes élèves quand on sait une histoire. Et puis bon, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la lecture du texte littéraire, je ne suis pas sûre, par exemple, je suis en formation, je ne suis pas sûre que la compétence de lire des textes littéraires existe vraiment. Je pense que c'est plutôt celle de lire littérairement des textes. C'est tout à fait différent. Et il ne faut pas, enfin, pour moi, à mon sens, elle ne pas. Et il me semble que ça change tout justement dans la perception du problème de la lecture. Et il me semble que nos étudiants maintenant et nos ex-stagiaires en formation, quand ils sont surtout historiens de formation, à plus de 80%, et c'est ça que j'ai un petit peu du mal à faire lire littéralement. C'est ça qui leur pose problème.
Alors que quand j'enseignais en lycée, on avait la chance d'avoir des enseignants d'histoire et de français qui étaient très concernés. Et on faisait chaque année un projet avec, enfin, entre les professeurs et les professeurs, on lisait des textes. Et on rencontrait des gens, ils avaient surtout, mais c'était vraiment un thème transversal, français-histoire. C'était vraiment pour les élèves quelque chose de très positif.
Une question à propos de votre exposé. Lorsque des documents sont présents dans les manuels de français et que ces documents ne sont pas appelés littéraires, est-ce qu'il y a quelque chose au fond qui indique à l'élève, qui, attention, là, tu as un document qui n'est pas normalement, tu devrais trouver dans ton livre de français, mais c'est ça. Pas, est-ce qu'il y a des questions spécifiques? Alors après, moi, sur la nature du texte, je ne pas. Si là, un texte, par exemple, de Marc Bloch, quand je le fais, si on donnait un texte de Jaurès, c'est autre chose. Alors, c'est parce que moi, j'ai fait regarder un petit peu le texte, donc les textes littéraires dans les manuels d'histoire. Là, puisque j'ai vu, il n'y a absolument aucun indice qui permet au fond de l'élève de savoir que là, il a un texte de Maupassant. On ne dit même pas que Maupassant est un livre en français, mais il a de la chaîne fait par Maupassant. Donc ça, c'était un peu la première. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est utile? Et puis surtout ces compétences de lecture, en disant que vous êtes plus disponible, je peux reprendre un texte, c'est se déplier, comme si on se déplier des vêtements successifs, se lancer du monde contemporain, de où on est, d'essayer de comprendre prendre ce fort que l'on reste, ce fort que l'on dit, à avoir des publics que je suis, qu'est-ce que les Grecs ont voulu paralyser, paralyser, paralyser ce fort. Et à partir de l'exemple sur le monde contemporain, la compétence de l'historiquement, peut-être elle est extraordinairement difficile, parce que c'est une imprégnation, c'est pas une connaissance de ce fort du XIXe siècle, c'est pouvoir s'immerger, oublier son regard, c'est oublier.
Bon, en ce qui concerne la première partie de votre question, dans l'ensemble, les manuels prennent beaucoup de précautions pour justement bien signifier la nature des documents. Alors, c'est toute une partie que je voulais également étudier et puis j'étais obligé de restreindre un petit peu mon objet d'étude. Mais c'est clairement signalé. Enfin, il y a tout un accompagnement avec... que ce soit des reproductions d'affiches, que ce soit, je sais pas, des reproductions d'objets ou ce genre de choses, et qui signale bien à l'élève qu'il est vraiment, c'est une entrée dans la direction du domaine historique. Et c'est particulièrement frappant, vraiment, dans le manuel Manière, où là, enfin, si vous l'ouvrez, je pense à une des doubles pages où il y a justement que il y a une étoile jaune, il y a des affiches de propagande, ce genre de choses. Et si on l'ouvre sans savoir qu'on est dans un manuel de français, on peut penser qu'on est dans un manuel d'histoire. Sur cette double page-là, par exemple, pour ce manuel-là. Mais sinon, grosso modo, on signale... l'élève est quand même très guidé pour la saisie de l'objet. Et on voit bien la différence aussi par rapport à l'ensemble des autres documents qu'on retrouve sur les autres chapitres, qui sont bien plus souvent des peintures, ou, mais pas des affiches, par exemple.
Juste une remarque sur l'analyse que vous avez faite. Il me semble que finalement, vous avez dit que là où la perspective historique était la plus envisagée, c'était dans l'étude du film. Et je me demande si, en fait, c'est pas par... c'est pas du fait que les enseignants, auteurs, des manuels ont peut-être moins d'outils et moins de réflexes, de techniques qu'ils appliqueraient sur le support, qui du coup privilégient une approche différente, et que cette approche-là, du coup, elle est un peu verrouillée lorsqu'ils sont sur des textes littéraires, et où là, peut-être la contrainte du programme et aussi leur propre formation va un petit peu aboutir ou en tout cas orienter le dispositif d'exploitation.
Oui, ce que je voulais dire par rapport à Lucie Aubrac, c'est que dans le cadre de l'exploitation du film, on avait l'impression que le petit bout de texte était juste un inducteur, vraiment un prétexte. En revanche, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, ce qui est intéressant, c'est que dans les concepteurs des manuels, il y a un manuel, et c'est certainement pas un hasard celui dont je viens de parler, où il y a un professeur d'histoire-géographie qui fait partie des concepteurs.
Concernant la police.
relation historique des mémoires. Il y a parfois des témoignages qui se contredisent. Est-ce qu'il y a des exemples d'exploitation de deux mémorialistes qui se contredisent, par exemple, il y a avec le...
Non, il n'y a pas d'exploitation contradictoire. Et je pense que c'est comme la même façon que je proposais peut-être de réfléchir à l'esthétisation liée au texte littéraire, mais on est en classe de 3e. Je ne suis pas sûr que ce soit le but premier. Mais en tout cas, dans ce que j'ai vu, je n'ai pas vu, pour répondre à la première partie de votre question, parce que je crois que je vous ai coupé, j'ai pas vu de confrontation.
L'exploitation des témoignages se fait plutôt sous son aspect littéraire et au détriment de son aspect historique. Pourquoi ? Est-ce que à cause de son aspect subjectif, ou bien parce que parce que le témoignage recoupe le journal intime,
J'ai pas voulu dire que ça se faisait au détriment. À chaque fois, ce qui est assez frappant, c'est qu'on a quand même les deux dimensions qui sont toujours convoquées, mais pas avec la même intensité. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est davantage l'approche par des questions qui relèvent du cours de français qui prédomine ? Bah, parce qu'on est sur des manuels de français, enfin tout simplement, je pense qu'il n'y a pas d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant dans le cadre du témoignage, c'est qu'en fait, quand on regarde dans les programmes, ça arrive vraiment à la marge. C'est texte à écrire, en plus c'est texte à écrire, un témoignage, relater un événement, exprimer sa réaction. Voilà. Et sinon, les textes à dire, la pratique du récit oral, entre parenthèses, témoignage, récit d'une expérience personnelle. C'est comme ça que le témoignage arrive dans les programmes qui sont encore en vigueur là pour très peu de temps. Et pourtant, tous les manuels organisent quand même quelque chose autour du témoignage. Mais de la même façon, il y a un des manuels qui organise autour de trois grands pôles, expression de soi, etc., mais qui ne place pas du tout témoignage dans expression de soi, qui le place dans la partie argumentation. Mais s'il ne la soulève pas réellement, dans le sens où à chaque fois, c'est la question du témoignage et de la subjectivité de celui qui témoigne, et ça, c'est signalé à chaque fois. Et je ne crois pas que l'objet, le but premier, soit d'aller justement faire une enquête. C'est plus l'appropriation de différents genres. C'est aussi des prétextes pour rentrer sur différents genres littéraires, mais pas pour mener une enquête scientifique ou revenir sur une conception de l'histoire. À chaque fois, ce qui est pris, les textes, enfin, c'est pas un hasard si on retrouve un certain nombre de textes qui sont les mêmes quand on est vraiment dans la dimension historique. C'est des choses assez consacrées. Alors, il y a un manuel dont j'ai moins parlé, mais qui faisait écho à ce qu'on avait pu dire tout à l'heure en première partie. C'est le manuel Attier, où là, on retrouve convoqué des auteurs dont on a pu parler en début d'après-midi, et dont on regrettait qu'ils ne soient pas particulièrement présents. Son nom m'échappe, comme Roger Martin Dugard, par exemple. Voilà, hein, c'était ça dont on parlait. Enfin, je pense que vous pourriez plus en parler que moi.
Un de nous, c'est que tu passes sur le sujet, si on parle, parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Le problème, c'est que quand vous citez Barbus, Remarque et Lucie Aubrac, on n'est pas du tout sur le même registre que le calendrier esthétique. Remarque et Barbus, les œuvres, les rimes, les propres, Lucie Aubrac, ça n'existe pas. Pour les cinéphiles, ça existe pour les cinéphiles. Je l'ai rencontré récemment, j'ai oublié son nom, de l'historien qui a étudié comment l'imaginaire collectif s'est construit pour la résistance, avec le chagrin, Lucie Aubrac fait partie de ces films. Donc c'est bien une autre histoire, mais si les professeurs et Emmanuel mettent l'accent sur ce qui est raconté, c'est parce que la manière, l'œuvre en elle-même n'a pas grand intérêt. Donc c'est un problème aussi. Si on propose comme ça des œuvres qui ne sont pas résistantes, parce que la base, quand même, c'est.
Oui. Moi, je me situais pas dans une perspective axiologique. Hein. Je prenais vraiment les. Oui, mais c'est.
Nous avons des hommes dans une formation en histoire, très grande majorité. Donc, la tentation est forte de projeter sa question. sympa, etc., sans s'interroger sur la valeur esthétique. Mm. Et, alors, sans s'interroger sur la valeur esthétique du film, pourquoi après, ça peut être également le cas pour les tests littéraires.
Non, on retrouve par exemple des choses comme le journal de Zlata qui revient très fréquemment et qui était à la mode il y a quelques années, qu'on se trouvait soit quand on étudiait au collège, bah, effectivement, soit le témoignage, soit l'épistolarité.
Ça va en toucher à une vraie différenciation, je pense, du champ de la littérature et du champ de l'histoire. Le historien n'a pas à se préoccuper de la dimension esthétique. Il prend pour objet d'étude ce qui est porteur de signification par rapport à une époque donnée, à ce que ça peut signifier, etc. Et même si c'est de très mauvaise qualité, c'était d'autant plus intéressant. L'œuvre littéraire esthétique, elle pose justement un filtre supplémentaire à l'historien. Que faire de cette valeur esthétique de l'œuvre? Il faut au contraire la surmonter pour pouvoir avoir un regard historique, un regard d'historien sur cette œuvre. Ou alors l'interroger du point de vue de l'histoire des formes esthétiques. Et ça, c'est une autre question. Mais là, je crois qu'on est vraiment sur une différenciation de l'approche historique et de l'approche littéraire, éventuellement même sur les mêmes objets. Parce que j'ai été frappée dans votre travail que vous avez fait, la présence d'éléments qui, dans les manuels, ne sont pas explicitement rapportés à du littéraire, en fait, ils relèvent d'une construction. Ils ne sont pas en soi historiques. Ils sont insérés dans un manuel, d'ailleurs, sont-ils historiques? Sont-ils la vision qu'ont les littéraires de l'histoire? C'est encore autre chose, parce que ce sont essentiellement, sauf qu'à l'exception que tu évoquais, la plupart des auteurs de manuels sont de la discipline du manuel. Le jour où on fera du manuel d'Alzheimer, ça n'existe pas. Même en primaire, ça n'existe pas. C'est bien, on a du mal à faire des manuels de polyvalence, on n'en a jamais vu, hein, des manuels de polyvalence en primaire. Donc, si ça existe, on peut tout faire dans le manuel. Mais là, on est dans la différenciation de chaque champ disciplinaire. Et du coup, on est vraiment sur le regard que les littéraires portent sur l'histoire. Et on n'a pas encore aujourd'hui, mais on aura, j'espère, le regard des historiens sur le littéraire. Et c'est très intéressant parce qu'on ne tient pas le même discours, on n'a pas la même approche, on n'a pas les mêmes outils. Et je dirais qu'on n'a pas non plus le même bagage intellectuel pour analyser ces éléments-là. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont une formation identiques en littérature et en histoire, qui sont capables de naviguer de l'un à l'autre avec essence, pas parce que de toute façon le rapport entre les deux est évidemment conflictuel. Quand on est contradictoire, qu'on peut passer d'un à l'autre, quand même ça frotte, c'est pas évident. Donc je pense que c'est aussi ça qui est intéressant sur la formation pour les élèves et pour nous en tant qu'enseignants, parce que ça mobilise des rapports avec les autres, on est obligé de travailler avec eux pour ça. Il ne suffit pas de faire venir le cours d'histoire dans sa classe pour être dans l'interdisciplinarité. Ce serait trop simple. Oui, il faut construire des objets communs avec des regards différents.
Avec une circulation des démarches.
Oui, avec un dialogue des regards. Un dialogue des regards. Sinon, y a pas, ça ne peut pas faire sens. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. On a tous des expériences différentes. Quand je suis dans le cycle de travail, je travaille avec des collègues d'histoire. Mais ce n'est pas facile de construire, même avec la même période historique, le même type de corpus, une volonté de ce qu'on fait en fait, là où on se rejoint, c'est qu'on veut que les élèves aient justement ce double regard sur une même période, des objets qui sont très proches, parfois les mêmes. Et ça peut donner parfois des choses tout à fait intéressantes. On s'aperçoit que l'esthétique peut rentrer à l'intérieur d'une visée historique. J'ai juste un petit exemple pour une anecdote. Les élèves de 3e qui lisaient justement des pages d'un historien nouveau alors qu'ils étaient en train de visiter le fort de Brunner à 20 ans. Et ça résonnait évidemment, vous en doutez, plus résonne concrètement vite fois. Mais je pense que ce qui se passait pour eux à ce moment-là n'était pas une simple lecture de classe. C'était, en plus c'était un texte allemand, traduit c'est vrai, mais ils avaient choisi volontairement un texte allemand qu'ils ont lu dans ce temps, dans cet endroit, comme était un enfer, et où on entend des traces aujourd'hui, bien repoussées, enfin, un lieu impossible qui gardait un temps, 70 ans, pas encore une marque pour la guerre. Je pense que pour les élèves, ça nécessite peut-être aussi, à un moment donné, la rencontre avec quelque chose qui est concret. Et que, effectivement, la rencontre avec une démarche historique suppose peut-être l'enquête sur le terrain. Enfin, je crois que ça joue dans l'approche historique et que c'est peut-être ça que le terrain nous avons à prendre de la démarche historienne. C'est justement cette, d'envisager la lecture des textes comme une enquête de terrain, quelque chose qui implique effectivement du apprentissage municipal, d'être dans un rapport d'extériorité.
Avec la condition que les historiens ne pas renoncer non plus à cet aspect-là. Oui. Parce que ces documents qui sont sans arrêt, de toute façon déjà, je dirais, tronçonnés, mis en page,
catalogués,
catalogués, ouais. Et qui n'ont plus rien à voir avec les documents de combien de places vous souhaitez dans les archives aujourd'hui?
Il faudrait
que ce soit systématique, parce que sinon, bah, ces affiches, c'est tout ça, c'est toujours...
C'est du prémâché.
C'est du prémâché.
C'est de l'histoire déjà construite.
C'est découpé, et donc ça n'aura... Donc finalement, c'est vrai que du coup, tous les textes se ressemblent.
Aseptisé.
D'autres questions?
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a aussi la rencontre avec Maïs de Kerangal. Je ne sais pas si vous avez lu Naissance d'un pont, c'est absolument génial. Donc, à la bibliothèque de la part.
Ah oui, je l'éteins là. Oh, thank you.
C'est un enfer, ces examens.
J'ai l'impression de tracer.
C'est... J'en ai fabriqué cette nuit entre minuit et 2h du matin.
Bon, bah écoute, moi je suis plus au contrôle parce que comme j'ai plus d'élèves, mais
je dois faire des affiches.
Oui, moi c'est des sujets pour les personnes.
Oui, qui diversifie un peu, parce que c'est même d'avoir des plans l'année prochaine.
Voilà, et donc pour changer un petit peu la position de travail.
Tout à fait. Je suppose que tu as une adresse.
Ah oui,
mais je me suis dit que
tu étais en train de faire. Mais sinon, moi, j'ai la tienne. Non, d'accord.
Moi, j'avais pas de. C'est notre attachement, mais c'est vraiment pas de disciplinarisation.
Oui, c'est ce que j'avais déjà entendu dire, effectivement.
Nous sommes tous arrivés. Et l'année prochaine va être terrible parce que c'est une année électorale. C'est la dernière année du mandat Monnier.
Ah, les enjeux.
Oui, tout malade. On espère que tout le monde est juste à l'instant.